VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Ouagadougou, 18h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Au Nigeria, des rebelles ont fait exploser une installation offshore du groupe pétrolier américain Chevron dans le sud du pays. Cette nouvelle annoncée par la marine nigériane laisse craindre une nouvelle flambée de violence qui pourrait affecter la production de brut. Les précisions d'Idrissa Sedou Dia.
L'attaque a eu lieu hier soir dans l'état de Delta, la région pétrolifère du premier exportateur de brut en Afrique. Elle n'a fait aucune victime, selon le porte-parole de la marine, Chris Ezekobe. La marine nationale ainsi que les autres forces de sécurité traquent les assaillants, a assuré M. Ezekobe. Il a ajouté qu'un groupe dont personne n'avait jusqu'à présent jamais entendu parler, les Vengeurs du Delta du Niger, a revendiqué l'attaque. Mais il n'exclut pas l'implication d'anciens chefs rebelles dont Tom Polo, actuellement recherché et poursuivi pour fraude. Les attaques contre les installations pétrolières sont en hausse au Nigeria depuis que les autorités ont ordonné en janvier l'arrestation de Tom Polo pour corruption. Tom Polo est l'un des chefs rebelles les plus connus du mouvement pour l'émancipation du delta du Niger, MEND. Il est poursuivi pour vol, détournement et blanchiment d'argent à hauteur de 235 millions de dollars.
Le président français François Hollande effectuera un déplacement en Centrafrique le 13 mai avant de se rendre au Nigeria pour un sommet régional consacré à la lutte contre le groupe islamiste nigérian Boko Haram. Objectif de sa visite en RCA, selon un communiqué de l'Élysée, apporter son soutien à la paix et la stabilisation dans le pays où la France avait déployé en 2013 la force Sangaris pour stopper des massacres intercommunautaires. Opération toujours en cours pour aider à encadrer l'armée centrafricaine. Concernant le sommet régional anti-Boko Haram au Nigeria, y participeront également le Cameroun, le Tchad, le Niger ainsi que la Grande-Bretagne et les États-Unis. La France et le Nigeria ont signé fin avril une feuille de route sur leur coopération militaire, notamment en matière de renseignement pour renforcer la lutte contre Boko Haram. En République centrafricaine, Abdoukarim Mekassoua a été élu président de l'Assemblée nationale. Monsieur Mekassoua, de religion musulmane, a été plusieurs fois ministre et était candidat indépendant à la présidentielle de 2015. RDC, présence supposée de mercenaires américains sur le sol congolais, le G7, une coalition de l'opposition, recommande une enquête neutre et impartiale pour établir la vérité sur ce dossier. Au cours d'un point de presse, jeudi à Kinshasa, cette plateforme qui soutient l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, cité dans cette affaire par le ministre congolais de la Justice, exige la liberté de mouvement et la présomption d'innocence pour son candidat à l'élection présidentielle. Nous écoutons Pierre Lumbi, cadre du G7.
Le G7 exige une enquête neutre et impartiale associant l'expertise internationale et la MONUSCO, en particulier pour établir la vérité sur le prétendu recrutement des mercenaires par M. Moïse Katumbi. Le G7 souligne qu'à ce stade, rien ne peut justifier une garde à vue, ni une résidence surveillée, ni un quelconque mandat d'arrêt, et encore moins la détention préventive de M. Moïse Katumbi, un leader politique d'envergure nationale, incontestable et ayant une résidence connue à Lubumbashi. Le G7 réaffirme sa détermination de lutter avec toutes les forces acquises au changement, de l'opposition comme de la société civile, pour le respect de la Constitution et l'alternance démocratique en RDC.
Pierre Lumbi, membre du G7 en RDC, toujours concernant ce dossier, l'ambassade des États-Unis à Kinshasa se dit préoccupée par les fausses accusations d'activité de mercenariat dans lesquelles seraient impliqués des citoyens américains. Des précisions avec Eddie Isango.
L'ambassade dit être au courant de la détention le 24 avril d'un citoyen américain qui travaillait au Katanga comme conseiller en sécurité. Mais ce Darrell Lewis n'était pas armé et les allégations selon lesquelles il était impliqué dans des activités mercenaires sont fausses. Nous comprenons qu'il travaille dans une société privée américaine qui fournit des services de consultation à des clients à travers le monde entier, précise l'ambassade américaine. La veille, le ministre congolais de la Justice avait déclaré avoir donné injonction au procureur général de la République d'ouvrir un dossier judiciaire dans l'ex-province du Katanga, affirmant avoir la preuve documentée que plusieurs anciens militaires américains qui se trouvent actuellement au Katanga sont au service de M. Moïse Katumbi.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Génocide rwandais de 1994 au Rwanda. Deux anciens maires seront jugés à partir de mardi aux assises de Paris en France pour leur participation présumée au génocide. Octavien Ngenzi et Tito Barahira Kinito de l'Effet sont notamment accusés d'avoir directement participé au massacre de centaines de Tutsis réfugiés dans l'église de Kabarondo, une commune de l'est du Rwanda, le 13 avril 1994. Ce procès se tient plus de deux ans après celui de Pascal Simbikangwa, un ancien capitaine de l'armée rwandaise condamné à 25 ans de réclusion criminelle, également en France, pour complicité de crimes de génocide. Et toujours concernant le Rwanda, la récente célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse a été une occasion de se pencher sur les réalités financières auxquelles font face les journalistes. Ces derniers sont peu rémunérés et les rédactions manquent de moyens. Le point sur la situation au Rwanda dans ce domaine avec ce reportage de Maurice Magorané à Kigali.
Au Rwanda, la corruption qui touche les journalistes est communément appelée « giti », un pot de vin ou une petite enveloppe offerte par l'institution ou l'individu qui organise l'événement. Cette corruption frappe de plein fouet les médias. En effet, selon un rapport de Transparency International Rwanda, sur plus de 500 journalistes, 70% reconnaissent avoir accepté au moins une fois le giti pour réaliser un reportage, ce que confirme l'Institut Panos Grand Lac.
La pratique de giti est ailleurs dans les autres pays, on appelle ça « gombo ». Il y a ceux qui appellent ça per diem, ainsi de suite. On essaie de chercher les petits mots pour signifier tout simplement la corruption. La corruption pour ne pas l'annoncer comme telle. Et c'est un phénomène qui existe au Rwanda. Si on voit cette pauvreté des journalistes, les journalistes qui n'ont pas des moyens de survie. Ils sont des moments, ils sont dans l'obligation de taire l'information moyennant une petite somme.
Nous sommes à Kigali, dans la maison de la presse, un lieu ouvert aux professionnels des médias. Les journalistes qui côtoient la maison sont du même avis.
En général, nous acceptons cet argent car on ne peut pas faire autrement. Les propriétaires des médias n'ont pas la capacité de donner les frais de transport aux journalistes qu'ils envoient sur le terrain. Dans ce cas, il est normal qu'ils touchent cet argent de transport pour subvenir à leurs besoins.
Les journalistes ne touchent pas leur salaire ou tardent à être rémunérés ou encore ont un salaire insignifiant à cause de la faible capacité de leur employeur. Les journalistes acceptent cet argent en attendant que le salaire arrive, par exemple, jouir de 5 000 francs rwandais supplémentaires sur les quelques 100 000 francs rwandais de salaire qu'on touche par mois.
La corruption qui touche les médias a des conséquences sur la ligne éditoriale. Parfois, les journalistes délaissent les vrais sujets qui méritent qu'on s'y intéresse pour couvrir les événements où ils sont sûrs de toucher l'argent. Pour Claude Kabengela, directeur de l'information à Télé 10, une chaîne privée, la corruption n'est pas le seul mal qui touche les médias rwandais. Les annonceurs imposent aussi leurs conditions et font en sorte qu'ils ne seront jamais critiqués.
Nos sponsors nous payent pour couvrir leurs événements. Les compagnies de télécommunications, les sociétés de publicité dépensent des millions en sponsoring. Que voulez-vous qu'on fasse quand une société de publicité injecte 4 ou 5 millions dans votre compagnie? Vous voulez qu'on en dise du mal?
22 ans après le génocide des Tutsis de 1994, les médias rwandais se recherchent toujours. L'intégrité des professionnels des médias est compromise. Leur capacité à façonner l'opinion publique et à informer objectivement les citoyens reste très limitée.
C'était un reportage de Maurice Magorané, notre correspondant à Kigali, au Rwanda. Élection en Grande-Bretagne, à Londres, le candidat travailliste Sadiq Khan, qui brigue le poste de maire de la grande métropole, est en tête selon les premiers décomptes. Plus de détails avec Saloua Jafari.
Sadiq Khan, 45 ans, musulman, fils d'un chauffeur d'autobus pakistanais, pourrait devenir le premier maire musulman d'une grande capitale occidentale. Après environ un tiers des votes dépouillés jusqu'ici, il devance son principal adversaire, le conservateur et fils de milliardaire, Zach Goldsmith. Les résultats sont attendus en fin de journée. En cas de victoire, Sadiq Khan, député de Toutine, un quartier populaire du sud de Londres où il a grandi en cité HLM, succéderait à l'excentrique conservateur Boris Johnson.
Et vous terminez en Libye. Le gouvernement d'Union nationale a formé un commandement militaire contre le groupe État islamique. L'État islamique a revendiqué des attaques près de Misrata qui ont fait hier 8 morts et 105 blessés. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.